Jésus, tu es notre Seigneur. Tu nous as donné cette Bible, ce livre, par laquelle tu nous parles, par laquelle tu veux faire de nous des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, solidement établis dans la foi, dans ta justice, dans ta grâce, dans ton pardon, dans cette vie nouvelle, dans les œuvres que tu as préparées pour nous. Alors nous te bénissons, nous te remercions, parce que nous avons la liberté de la lire, de la méditer, de la partager autour de nous. Et nous sommes en communion avec tous ceux qui ne peuvent pas le faire, parce qu'ils sont dans des pays où règne la persécution. Alors, Seigneur, continue à nous bénir, continue à faire avancer ton règne parmi nous. Amen. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion qu'on m'a demandé de creuser le premier chapitre du livre de Tite. Donc le livre de Tite, qui est un petit livre du Nouveau Testament, une petite épître. Et durant ce travail, il y a certaines choses qui m'ont surprise. Et je veux vous en partager deux ce matin. Et j'en profite, avant d'aller plus loin, eh bien pour vous encourager, pour nous encourager les uns les autres, eh bien à creuser la Bible. Moi, chaque fois que je m'arrête pour la creuser, je découvre que c'est une mine. C'est une mine d'or, une mine précieuse, avec vraiment une source rafraîchissante. Et je crois qu'elle nous est donnée pour vraiment épuiser constamment, pour grandir. Et on n'a jamais fini de le faire. C'est vrai que moi, j'ai fait des études. J'ai eu l'occasion d'apprendre l'hébreu, j'ai appris les grecs aussi. Et pour moi, c'est un plaisir de revenir justement au texte original. Et il y a parmi nous des jeunes, alors je les encourage peut-être, eh bien, à se demander devant le Seigneur, eh bien, s'il ne ferait pas des études. Si, oui, il ne se déciderait pas à vraiment se plonger dans cette Bible pour aussi la partager à d'autres. Est-ce qu'on pourrait projeter les 5 premiers versets du Donc Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. La première chose qui m'a arrêté et que je vous partage, c'est la manière dont Paul se présente. Il est dit « Paul, serviteur de Dieu ». C'est une formule, mais c'est plus qu'une formule. Et en ceci, si on connaît le grec, si on lit le Nouveau Testament grec, on découvre qu'en fait, Paul ne dit pas Paul, serviteur de Dieu, mais Paul, esclave de Dieu. Et que le mot qui est utilisé, doulos, veut dire serviteur, mais surtout esclave. Esclave de Dieu. Alors on peut comprendre les versions, les traductions qui atténuent un petit peu le caractère un petit peu rude de ce mot esclave pour le remplacer par serviteur de Dieu. Mais si nous voyons au chapitre 2, les versets 9 et 10, je vois que c'est quelle version qui est utilisée, tu sais? La seconde, ok. Bah, essaye voir ce mort. Donc pour dire que on voit qu'avec le même mot, doulos, qui est utilisé d'une manière générale dans le Nouveau Testament, parfois c'est écrit esclave et d'autres fois c'est écrit serviteur. Mais en grec, c'est le même mot. Donc là, Paul s'adresse à Tite pour qu'il s'adresse lui-même aux esclaves. Donc pour nous qui vivons au XXIe siècle, qui est bénéficiant de cette abolition de l'esclavage, hein, en France c'était en 1848, nous avons rappelé il y a quelques jours, il y a deux jours, la Convention internationale des droits de l'enfant, pour essayer justement de lutter contre l'esclavage. En 1948, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien, l'esclavage n'est pas un état que nous aimons et que nous valorisons. Et j'essayais de m'imaginer, je pense Stéphane, qui va vers un nouveau groupe de chrétiens et qui se présente, moi Stéphane, esclave de Dieu. Je pense que ça passerait mal. Peut-être que tu dirais plutôt serviteur de Dieu. Et même, je ne sais pas si on utiliserait cette qualification pour nous présenter nous-mêmes. Je pense qu'il y a plus qu'une formule. Et qu'il est bon d'essayer de comprendre ce que Paul veut dire par là. C'est plus que quelque chose du passé. Ça a quelque chose, je crois, à nous dire pour nous aujourd'hui. Paul était juif. Il s'enracinait dans une culture, dans une foi au Dieu d'Israël, à l'Éternel, au Seigneur. Et quand on ouvre l'Ancien Testament, on découvre bien que l'esclavage était une réalité et que le mot esclave entrait dans la relation des Hébreux avec leur Dieu. Et je veux rapidement voir ça avec vous. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi un seul mot, Eved, pour dire serviteur, pour dire esclave. Il y avait les esclaves étrangers qui étaient des prisonniers de guerre, qui étaient des enfants d'esclaves eux-mêmes. Des gens qui appartenaient entièrement à leur maître. Entièrement. Mais il y avait aussi les esclaves israélites. Ces gens qui, à cause de la misère, parce qu'ils avaient des dettes, devaient eux-mêmes se vendre comme esclaves ou vendre leurs enfants comme esclaves. Mais Dieu est bon. Et pour pas que les esclavages se répandent, eh bien, il demandait que tous les 7 ans, il y ait cette possibilité pour un esclave de se libérer. Hein? Et en tout cas, le faire l'année du jubilé, tous les 49-50 ans. Quelqu'un aussi, et ça c'était fréquent, se déclarait l'esclave de quelqu'un qui considérait comme supérieur. Ruth disait à Boaz, je suis ton esclave. Jacob, quand il a retrouvé son frère, eh bien, s'est passé devant lui comme son esclave. Il y avait aussi l'esclave, le principal esclave d'Abraham, celui qui a été s'occuper de tous ses biens qu'Abraham envoie dans son pays d'origine, pour chercher une femme pour son fils Isaac, dans Genèse 24. Et je veux citer un texte dans Deutéronome 16, parce qu'on voit souvent Dieu, le Dieu d'Israël, dire à son peuple, souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte et que je vous en ai libérés. Il leur dit cela au moment où il leur dit, mais souvenez-vous des pauvres parmi vous, souvenez-vous des esclaves parmi vous, soyez bons, généreux à leur égard. Et pour appuyer, je dirais, sa demande, il leur dit, mais souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte Et là, il y a un des textes de Deutéronome 16. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, donc vos esclaves, les Lévites qui habitent dans vos villes, les immigrés, les orphelins et les veuves qu'il y aura parmi vous, dans le lieu que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi pour y établir sa présence. Vous vous souviendrez que vous avez été esclaves en Égypte et vous veillerez à observer fidèlement ses ordonnances. Paul a toutes ces réalités, il porte toute cette réalité en lui, comme juif, comme fils d'Abraham. Et nous, en juif, en Jésus le juif, je crois que nous pouvons aussi, même si nous sommes français, suisses, américains, russes, à cause de Jésus, eh bien reconnaître que nos ancêtres aussi étaient esclaves. Je crois qu'il y a une logique de la foi qu'il faut pousser jusqu'au bout. Nos ancêtres aussi étaient esclaves. Donc nous pouvons aussi demander à Dieu de nous aider à travers ça, à comprendre mieux sa parole et ce qu'il nous demande, et en particulier la compassion envers les pauvres, la générosité, l'obéissance. Et dans l'Ancien Testament, il est aussi quelque chose qui est important concernant, je dirais, cet esclave. Il y a l'Eved Yahweh, l'esclave de Dieu, le serviteur de Dieu. C'est quelque chose que nous voyons très souvent. Le serviteur de Dieu qui est l'adorateur. L'adorateur de Dieu, et c'était Abraham qui était serviteur de Dieu, Josué, David, Job, Daniel et tant d'autres, mais aussi des hommes de Dieu qui étaient les serviteurs de Dieu. Et cette appellation aussi, serviteur de Dieu, était pour des ministres, des ambassadeurs de Dieu, des hommes que Dieu avait et des femmes que Dieu avait choisis, que Dieu avait appelés et que Dieu avait envoyés pour accomplir une mission spéciale. C'était le peuple d'Israël, c'était les prophètes, les anges, Moïse, c'était aussi les étrangers, Nabucodonosor, dans Ésaïe, qu'on voit qu'est le serviteur de Dieu, que Dieu s'est choisi pour accomplir son œuvre. Mais par-dessus tout, il est question dans Ésaïe d'un serviteur, un serviteur de Dieu. Dans les chapitres 40 à 55. D'un serviteur qui est entièrement consacré, d'un serviteur qui est élu, d'un serviteur qui est dans l'intimité de Dieu, d'un serviteur qui va jusqu'au bout fidèlement de la mission que Dieu lui a demandé d'accomplir pour établir la justice sur la terre. Ce serviteur, cet esclave, est aussi l'esclave des hommes. Il connaît le mépris, il connaît le rejet, il connaît la souffrance. Mais il est déterminé à aller jusqu'au bout de la mission que Dieu lui a demandé d'accomplir. Et c'est l'esclave de Dieu. Si nous passons dans le Nouveau Testament, en particulier dans les évangiles, nous voyons Jésus, lui aussi, en contact avec cette réalité de l'esclavage. C'était une réalité culturelle qui allait de soi. Pour le fonctionnement de la société, il y avait des esclaves. Il n'y en a pas eu parmi ses disciples. Mais certainement beaucoup l'ont écouté. Il a eu compassion des esclaves. Nous voyons dans son enseignement aussi, utilisé régulièrement, des esclaves dans ces paraboles. C'est une réalité dont il parle. Nous le voyons aussi enseigner. Il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus esclaves, mais je vous appelle amis. Parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami sait. Mais par-dessus tout, je crois que Jésus s'est comporté, je dirais, en esclave de Dieu. Dans le sens de, il portait en lui toute cette réalité visible, présente dans l'Ancienne Alliance, en particulier dans ces chapitres d'Ésaïe 40 à 55. Et parce qu'il était véritablement l'esclave de Dieu, il s'est présenté aussi comme l'esclave des hommes. Et nous le voyons dans Jean chapitre 13, les versets 12 à 14, au moment où il lave les pieds de ses disciples. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à vos tours vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. » Jésus accomplit la tâche qui incombait au serviteur, à l'esclave de faire. Il l'a fait en tant que maître, en tant que seigneur, mais en tant que serviteur de Dieu, notre sauveur. Et Paul, quand il parle de cela, dans son hymne, dans Philippiens 2, il dit de Jésus, il s'est vidé de lui-même, ou en quelque sorte, il s'est réduit lui-même à rien, en se faisant vraiment esclave. Je crois qu'on a de la peine, parce que je crois qu'on est conditionné culturellement, peut-être aussi religieusement, à comprendre, je crois, toute la profondeur de ce que ça signifie. Et Paul, là, aux Galates, dit « J'ai été crucifié avec Jésus-Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. La vie que je mène maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Donc si Paul peut se dire « esclave de Dieu », c'est parce que celui qui vit en lui, le Seigneur Jésus, est lui-même esclave. Et je crois que par lui-même, Paul n'aurait pas pu le faire. Parce que l'orgueil est fort. Et est-ce qu'il a vécu ses expériences spirituelles? Sa responsabilité dans les églises luttait la contre. Mais la première chose qu'il dit à Tite, il lui dit, Paul, esclave de Dieu. Il ne met pas en avant ses titres. Il ne met pas en avant ses responsabilités. Il ne met pas en avant son expérience. Il met en avant l'œuvre du Christ en lui, qui fait de lui cet esclave de Dieu. Donc, quand je pense aujourd'hui à cette notion d'esclave, avec à l'arrière-plan ce survol de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, je ne vois pas d'abord la violence, des abus, mais je vois la soumission, l'obéissance, la fidélité, la confiance, les responsabilités, l'intimité, mais aussi le bonheur. Le bonheur. Quand Dieu dit à son peuple, et il le répète, je vous ai libéré de l'esclavage d'Égypte, pour en quelque sorte, pour que vous veniez à mes esclaves, mais pas dans le sens des Égyptiens, de mon sens à moi. Et je crois qu'il y a un bonheur, même si c'est culturellement, on ne peut pas le dire, aujourd'hui, eh bien, de se considérer soi-même et de creuser cette notion d'esclave de Dieu, selon la Bible, en Jésus-Christ. Mais dans le cas de Paul, je crois qu'il y a plus aussi. Comme on l'a vu dans cette épître de Tite, dans le deuxième passage qui a été projeté devant vous, Paul était entouré d'esclaves dans la société romaine et dans les communautés. On dit qu'au moment où l'église primitive se développait, il pourrait y avoir jusqu'à un tiers d'esclaves dans l'Empire romain. Un tiers. Merci. L'accent ou bien ? Oh là, je ne me rends pas compte. Excusez mon accent. Un tiers, donc. 33%. Et légalement, écoutez bien, légalement, ils n'étaient pas considérés comme des personnes, hein, mais comme des outils, comme des objets. C'est terrible. Donc, leur maître avait tout pouvoir sur eux. Il pouvait les vendre, les acheter, les échanger, les donner en héritage, les frapper. Quasiment tout pouvoir. Mais néanmoins, au moment du Nouveau Testament, on voit qu'il y a une évolution. Parce que les Romains, ils ne sont pas bêtes. Ils se sont rendus compte que si on traitait bien un esclave, si on le respectait, il travaillait mieux. Donc on voit une évolution positive. Quand les premiers messagers de la bonne nouvelle arrivent, eh bien les esclaves ont dû certainement être réjouis. Parce qu'on leur prêchait une bonne nouvelle pour eux. On leur prêchait l'égalité en Jésus-Christ. Paul y dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Vous êtes tous en, égaux en Jésus. Quelle bonne nouvelle pour les esclaves. Il leur disait aussi ce message, eh bien, celui qui est au départ de cette foi nouvelle, le fondateur de cette religion nouvelle, parce que pour eux, ça en était une, eh bien, lui-même a été comme un esclave. Il a connu le mépris, il a connu les coups, la souffrance. Vous pouvez vous identifier à lui. On leur disait aussi, on leur annonçait en pardon une grâce gratuite, gratuite, à des personnes, des hommes, des femmes, à qui on n'avait certainement jamais dit ça, en tout cas pas leur patron. Et quand ils partageaient la Sainte Cène, eh bien, ils le partageaient ensemble avec des gens plus élevés dans la hiérarchie sociale. Et quand on les poussait à bout dans leur foi, quand ils étaient engagés, quand ils étaient torturés, quand ils devaient aller dans le cirque, eh bien, ils retrouvaient aussi ces gens plus élevés et ils mouraient avec eux pour le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on voit à plusieurs reprises dans les épîtres de Paul et dans d'autres épîtres, bien qu'il y avait dans les communautés chrétiennes de nombreux esclaves. On le voit, il y en avait à Colosse, il y en avait à Éphèse, il y a cet épître de Paul à Philémon, il y avait son esclave qui s'était enfui. Mais il y a un texte qui, je crois, parlait beaucoup aux esclaves. Et un texte qui pour moi est important, c'est le texte dans 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 27 à 31. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse, que le monde méprise, ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. J'essaie de m'imaginer la communauté qui a reçu ce message, qui l'a entendu pour la première fois, et peut-être justement des esclaves qui étaient là. Ces esclaves qui, comme je l'ai dit, légalement n'avaient aucune. Ils n'étaient pas des personnes, ils étaient des objets. Et on leur dit, Dieu a choisi ce que la société, ce que les hommes considèrent comme insignifiant, comme n'étant rien, pour confondre les puissants, les forts, les sages. Je crois que Paul se dit esclave de Dieu parce qu'il veut aussi vouloir être proche de ces esclaves des hommes. Lui, il n'était pas l'esclave des hommes, il était libre. Mais il a voulu aussi se faire tout à tous, comme il l'a dit. Être proche d'eux. En quelque sorte, s'identifier à eux au nom du Seigneur Jésus. Et dire à ces hommes, ces femmes, qui n'avaient aucune valeur, qui étaient bons qu'à travailler. Et si on n'était pas content, eh bien, on s'en débarrassait, on les frappait. Il leur dit, mais vous avez un ministère. Dieu vous a choisi. Dieu vous aime. Jésus-Christ s'est fait serviteur, s'est fait esclave pour vous. Et vous pouvez entrer dans le ministère en tant qu'esclave. Vous pouvez exercer le ministère de Jésus comme esclave. En quelque sorte, ils étaient plus proches de Jésus que ceux qui étaient libres, que les nobles, que les puissants, que les riches. Parce qu'ils partageaient avec Jésus cette condition d'esclave. Et il semble que les esclaves ont contribué beaucoup à ce que l'évangile se répande, à ce que des familles nobles soient aussi converties, à travers leur témoignage, à travers leur comportement, qui était changé, parce que Jésus vivait en eux. Alors, moi j'ai été interpellé quand j'ai creusé un peu ça, quand j'ai lu ça, et je vous partage un petit peu mes interpellations, mes questionnements. Je dirais, moi, mais quels sont mes modèles? Est-ce que c'est les modèles que nous offre la société? Des modèles de puissance, des modèles de richesse, des modèles de succès, de célébrité? Ou bien est-ce que c'est ces modèles qui jaillissent des Écritures et qui jaillissent, je crois, du cœur de Dieu? C'est ces modèles que nous avons dans l'intimité avec Jésus-Christ. Ces modèles de service, ces modèles de consécration totale, de fidélité. Ce modèle d'esclave. Et la question aussi que je me pose, moi, mais c'est quel est le regard que je pose sur, peut-être pas tellement les esclaves parmi nous, il y en a, hein, des esclaves d'addiction, des esclaves aussi de travail parfois, mais les gens qui sont exclus, les gens qui sont rejetés, méprisés. Quel regard est-ce que je pose sur eux? Est-ce que je suis touché au niveau de ma culpabilité, de ma conscience, qui me dit, oulala, c'est pas normal ça, il faut t'empresser de donner quelque chose pour qu'ils atteignent un niveau autre, un niveau plus acceptable? Ou est-ce qu'en premier Dieu, c'est la connaissance de Jésus-Christ qui prime? Que dans leurs conditions de souffrance, de rejet, de mépris, ils rencontrent celui qui a été exclu, celui qui a été méprisé, mais qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui. Personnellement, je crois beaucoup au ministère des exclus, des pauvres, des prisonniers. veut pas dire qu'on ne va pas aussi encourager, viser aussi un changement de leurs conditions. Mais je crois que ceux qui souffrent aussi le rejet, l'exclusion, le mépris, ont quelque chose que moi je n'ai pas de Jésus-Christ, qui fait qu'ils sont proches de lui, que lui est proche d'eux. Alors plutôt que tout de suite sortir de leurs conditions, je crois que je peux les aider aussi à rencontrer le Christ, esclave, serviteur, méprisé, humilié, comme on l'a chanté tout à l'heure. Le deuxième point que j'aimerais souligner plus rapidement, Paul il s'adresse à Tite. Tite, qui est grec. Tite, qu'il a laissé sur l'île de Crète. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la Crète, moi je ne connais pas. J'ai regardé dans une encyclopédie et j'ai vu que c'était un tout petit peu plus grand que l'Alsace, donc c'est une île montagneuse. Paul, d'après Actes 27, y a passé, s'y est arrêté, enchaîné, prisonnier, sur le chemin qui le menait à Rome. Il s'est arrêté dans un port du sud de l'île. On peut imaginer, mais la Bible ne le dit pas, qu'il y est retourné par la suite, après un premier emprisonnement à Rome, qu'il y est retourné ensuite avec Tite, et qu'il y a laissé. Aujourd'hui, la Crète, c'est une île touristique, d'après ce que j'ai vu sur Internet. Il y a le sable, c'est agréable, il fait bon vivre, et dans la grisaille d'Alsace, quand la grisaille se fait trop lourde, d'aller en Crète. Mais Paul en dit autre chose. Au verset, en Tite, chapitre 1, les versets 12 à 13. Un Crétois qu'il considère comme un prophète a dit: « Les Crétois ont toujours été menteurs, ce sont des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. » Voilà un jugement qui est bien vrai. Quand j'ai lu ça, vraiment ça m'a frappé. C'est la deuxième chose dans ce chapitre qui m'a frappé et que je vous partage. C'est l'image transmise de ce peuple, de cette île, et avec laquelle Paul est d'accord. Il ne dit pas que c'est faux. Il cite là un homme, Épiménide qui semble-t-il vivait au 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui, j'ai vu sur Internet, bon, il y a beaucoup de légendes, de choses qui ne sont pas très sûres, mais il pourrait avoir été berger et aussi un devin, et un sage. Donc c'est lui, ce Crétois, qui dit une chose si dure, si négative, concernant son peuple, concernant lui-même en fait. Et Paul est d'accord. Je trouve assez remarquable que une telle citation se trouve dans la Bible. Une citation qui est pour moi comme une malédiction. Malédiction sur un peuple. Une malédiction qui est profonde, qui est ancienne. Épiménide vivait au 6e siècle avant Jésus-Christ, Paul au 1er. Mais de génération en génération, à travers le comportement de ces Crétois, il semble que les habitudes demeuraient de mensonges, de gloutonnerie, de fainéantise. Et quand on lit l'épître de Paul à Tite, on peut se dire que dans cette église, dans cette première communauté en Crète, il va y avoir des Crétois avec un tel comportement, un tel héritage. Et moi, je rends grâce à Dieu que Paul ait écrit à Tite en Crète, que Paul se soit arrêté sur cette île, que Paul ait cité cette phrase, cette malédiction, cette phrase destructrice, cette phrase qui enferme. Parce que pour moi, c'est un message du Dieu de la grâce qui dit, mais dans ce livre où il n'y a pas que des belles choses, eh bien, il y a aussi cette malédiction. Parce que moi, eh bien, je veux bénir. Je veux transformer cette malédiction en bénédiction. Et c'est le message qu'il nous adresse à nous. Il n'y a aucun peuple n'est exempt de comportements destructeurs et faux, des formes de malédiction sur une région, sur un peuple tout entier. La Suisse comme la France. Mais parce que Paul, au nom du Seigneur, s'est arrêté en Crète et que la Bible nous le dit, eh bien nous savons que Dieu transforme toute malédiction en bénédiction. Et ce que je trouve remarquable aussi, c'est de voir comment réagit Paul. Paul, il pourrait dire, ben, ce peuple, cette île qui n'est pas sur le passage, cette petite île insignifiante, ce peuple qui a un comportement légendairement mauvais, est-ce que j'ai oublié de dire ? Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en latin, en grec, pardon, les Grecs avaient imaginé un verbe, kretizo, kretizo qui veut dire en grec se comporter, parler comme en crétois. Donc être fourbe, trompeur. Donc dans le langage, il y avait aussi un mot issu de cette culture, issu de ce pays, issu de ce peuple, pour dire quelque chose de négatif. Hein? Le crétismos, c'était la conduite, le comportement, les paroles fourbes, trompeuses. Et on avait, à partir du mot crétois, on avait inventé un nouveau mot, néologisme. Donc, pour montrer bien combien la chape était lourde sur cette île, sur ce peuple. Et Paul, sachant tout ça, il dit pas, bon, c'est trop dur pour moi, ou bien ils sont trop mauvais, ou bien... Bon, je fais comme si je ne savais pas, je passe à autre chose. Quand Jésus était sur terre, il y avait des pharisiens, les scribes, qui maugraient quand Jésus s'arrêtait avec les collecteurs d'impôts. Ils lui disaient, mais comment est-ce qu'il peut s'arrêter auprès d'eux? Comment est-ce qu'il peut manger auprès d'eux? C'est inadmissible. Mais Paul, l'ancien pharisien, a changé. Paul, il a maintenant Jésus en lui, cet esclave en lui. Paul, il ne réagit pas non plus en disant, bon, on va faire des compromis, quoi, parce que pour essayer de faire passer l'évangile. Il y a tellement de différences entre l'île de Crète et le message qu'on va essayer de faire en sorte qu'on puisse s'arranger. Hein. On va essayer d'assimiler. Donc Paul, comme ça apparaît dans le deuxième verset de ce premier chapitre, il réagit au nom du Dieu qui ne ment pas. Au deuxième verset, il est marqué « Dieu qui ne ment pas ». Et c'est un contraste entre ces Crétois qui sont des menteurs de premier ordre, est ce Dieu qui ne ment pas. Et ça m'a frappé aussi. Ce mot qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, il se trouve justement dans un contexte de mensonge. Dieu qui ne ment pas signifie Dieu qui est véridique, qui est toujours vrai, qui est fidèle. Mais aussi Dieu qui ne se trompe pas. Ce mot qui ne ment pas veut dire en grec qui ne ment pas, mais aussi qui ne se trompe pas. Qui ne se trompe pas. Au nom de ce Dieu qui ne ment pas, Paul a été en Crète. Il y a laissé un homme fiable, un homme éprouvé, un homme en qui il avait pleine confiance. Il a établi une stratégie aussi. Pour convertir pour que le message de grâce, de bénédiction soit annoncé, soit cru sur cette île. Et c'est aussi dans cette épître de Tite qu'on voit eh bien, ce que Paul dit concernant la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes. Et moi je trouve merveilleux à nouveau que Dieu nous donne cette épître de Paul à Tite. Dieu veut qu'on sache que ses serviteurs, en son nom, ont été sur ce lieu de malédiction. En son nom, avec des paroles de grâce, de bénédiction. Et aujourd'hui, je crois que c'est là une bonne nouvelle. Et c'est aussi pour moi la question. Où sont les gens sur qui il y a une malédiction? Qui sont ces gens vers qui notre Dieu nous envoie, ce Dieu qui ne ment pas, ce Dieu qui est fidèle, qui veut le salut de tous les hommes, qui a une grâce pour chacun, une grâce qui libère, une grâce qui donne la vie et qui épanouit? Eh bien, ces gens à qui on a donné, en qui on a dit des paroles destructrices, des paroles négatives, des paroles qui emprisonnent. Eh bien, puissions-nous, je dirais, suivre l'exemple de Paul. Paul qui s'est fait serviteur, Paul qui se présente comme esclave. Esclave de Dieu parce que Jésus vit en lui. Paul qui peut, eh bien, dire... J'y vais. Je persévère. Je prêche le message de la grâce. J'espère en mon Dieu qui ne ment pas. Alors que Dieu nous accompagne, que ce Dieu qui ne ment pas, eh bien, nous donne de vivre vraiment pleinement de sa grâce et d'être tout en lui, lui qui nous a tout donné. Amen.